Vous écoutez France Musique.
Tous, une heure de programmation musicale aujourd'hui pour agrémenter votre été, que vous soyez à la plage, en vélo, en voiture, je ne sais où, en tous les cas, c'est par Haydn que ça va commencer.
Thank you.
Joseph Haydn, l'Allegro Conspirito de la 64e symphonie en la majeure, une symphonie écrite au milieu des années 1770, peu connue, peu jouée. Faut dire, il y en a tellement des symphonies de Haydn, avec tellement de trouvailles à l'intérieur, la postérité ne sait jamais où donner de la tête. Ici, c'est extrait de la célèbre intégrale d'Antal Dorati, intégrale de toutes les symphonies de Haydn, avec le Philharmonia Ungarica. Voici l'une des pièces les plus poignantes de Robert Schumann, qui en fit pourtant quelques-unes dans le genre, Des Abends, au soir, qui ouvre le recueil des Fantasiestücke, avec toutes ces dissonances douloureuses et résignées venues d'un autre âge et d'un ailleurs. Mais lequel donc? Voyons ce que nous en dit Sviatoslav Richter.
Thank you.
C'est incroyable ce que fait ici Sviatoslav Richter dans cette ouverture des Fantasiestücke de Robert Schumann. Des Abends au soir, incroyable parce qu'on a l'impression qu'il met en musique l'épuisement, commençant presque de manière droite et finissant comme s'il n'y avait vraiment plus rien. C'est absolument incroyable ce qu'il fait là. Bon, c'était beau. C'était donc la musique de Robert Schumann qu'on entendait là. Pablo Heras Casado, voici un nom qu'on a appris à connaître depuis quelques années, ou au moins depuis quelques mois. On l'a entendu cet été, vous l'avez peut-être vu même sur Arte, puisque c'est lui qui dirigeait cette production mémorable de la Flûte Enchantée de Mozart d'Aix-en-Provence. Mais depuis quelques temps, il nous donne aussi quelques disques, Pablo Heras Casado, chez Harmonia Mundi. Je vous ai parlé tout récemment d'une symphonie de Félix Mendelssohn. Et bien voici ici deux symphonies de Franz Schubert. Et pour cela, il a en face de lui le Freiburger Baroque Orchester, un ensemble absolument remarquable dans le répertoire ancien. Et c'est l'une des particularités de Pablo Heras Casado, qui va toujours chercher les ensembles qu'il faut pour la musique qu'il faut. Un ensemble consacré à la contemporaine pour jouer de la création, il en fait beaucoup. Et puis ce qui est, on va dire, l'un des modèles de l'orchestre baroque aujourd'hui, cet orchestre baroque de Fribourg. Pourquoi faire du baroque dans du Schubert? Ben, vous allez l'entendre, c'est très simple, pour rendre de plus en plus léger, de plus en plus dynamique, une manière de faire la musique peut-être aussi, qui en général a été, même chez Schubert, un peu trop alourdie. Écoutez donc cet Allegro con brio, il y a un adagio qui commence, c'est normal, c'est l'ouverture de cette troisième symphonie. Thank you. Le premier mouvement de la symphonie en ré majeur, la troisième de Franz Schubert, était joué par les membres de l'orchestre baroque de Fribourg à la direction Pablo Heras Casado. Vous écoutez France Musique, il est 15h21. Je propose d'entendre maintenant une pièce très secrète de Manuel de Falla, Psyché, écrite pour un effectif rare. Une voix, une flûte, une harpe, un trio à cordes. Nous sommes là en 1924. Et Falla a écrit ceci sur un petit texte d'un écrivain, Georges-Jean Aubry, pour remercier ce dernier. Oui, parce que lui était une sorte de soutien pour Manuel de Falla. Il engageait tout le monde à jouer sa musique, il lui faisait de la publicité, comme on dit, et même auprès d'éventuels éditeurs. Donc une musique de remerciement, mais qui est toute mystérieuse, avec un côté néoclassique, alors très en vogue, on est là en plein milieu des années 20, je vous le rappelle. Une musique qui devient aussi, Psyché, un véritable chef-d'œuvre, pourvu que ce soit Victoria de Los Angeles qui chante.
Psyché de Manuel de Falla était chantée par Victoria de Los Angeles. Comment écouter un compositeur ancien lorsque le temps a passé et que sa musique ne nous parle plus vraiment? Il y a la solution actuelle, on la connaît, elle est dite à la baroque. Il consiste à se rapprocher au maximum des conditions de réalisation instrumentale de l'époque en question, voire des conditions d'écoute de cette époque-là. Et puis il y a la solution passée, dite à la Stokowski, qui consiste à habiller l'œuvre que l'on veut restituer avec des couleurs adaptées à l'époque, non pas qu'il a vu naître, mais à celle qui doit l'entendre. C'est-à-dire habiller par exemple un mannequin du 18e avec du Lagerfeld. C'est ce qu'a fait longtemps, puisqu'on vient de le nommer Léopold Stokowski, mais peut-on lui reprocher? Après tout, c'est grâce à lui qu'on a redécouvert tellement de musique, et entre autres celle de Jean-Sébastien Bach, en faire redécouvert. Est-ce que c'est véritablement le terme? Elle a sonné différemment, et c'est, je crois, à l'époque de ça dont on avait besoin. Thank you. Au départ, Jean-Sébastien Bach a écrit une toute petite fugue de rien du tout. À l'arrivée, Léopold Stokowski nous fait un énorme machin orchestré et tonitruant. C'est une sacrée gueule quand même. Enfin bon, est-ce que c'est encore du Bach? J'en sais rien. Mais est-ce qu'on fait aujourd'hui en croyant faire de l'authentique? Est-ce que c'est vraiment du Bach? Le sait-on plus? Celui qui aura un enregistrement de l'époque de Jean-Sébastien qui me l'apporte. Et puis on verra sur pièce. On entendait la Esa Pekka Salonen et le Los Angeles Philharmonique. C'est une curiosité que je vous propose d'écouter à présent. Vous allez entendre, ça craque beaucoup. C'est vieux, il faut parfois tendre l'oreille. Ça nous vient d'une collection qui a arrêté ses activités maintenant, mais qui était très belle il y a quelques années. Andante nous proposait quelques beaux coffrets bleu nuit avec 4 ou 5 disques dedans, fort documentés d'ailleurs, qui étaient à chaque fois consacrés à une seule œuvre, ou à deux au maximum, mais dans toute une série d'interprétations différentes, vieilles de 60, 70, 80 ans. Le tout formait une contribution à une histoire de l'interprétation musicale. C'était fort instructif, et puis au passage, ça permettait parfois de découvrir des interprétations vraiment d'anthologie. Voici par exemple le rondo final du printemps, la sonate pour violon et piano de Beethoven. Simon Goldberg, violoniste polonais, est ici en soliste en 1936. Il a à peine 27 ans. Il est avec l'une de ses partenaires préférés au piano, Lili Kraus. Thank you. était-ce une éloquence merveilleuse ou est-ce une sonate qui n'a pas pris une ride? Le printemps en son rondo final de Beethoven, joué par Lili Kraus au piano, Simon Goldberg au violon. Nous étions là en avril 1936. Les chemins de Sion sont en deuil. Ah non, ce n'est pas un commentaire pour la situation politique actuelle. Non, c'est le titre d'une antienne funèbre écrite par Georg Friedrich Händel en 1737 pour les funérailles de la reine Caroline, épouse de George II. Une pièce de trois quarts d'heure tout de même qu'il dut, urgence des funérailles oblige, achever en cinq jours à peine. Il faut dire que Händel était très proche de la reine Caroline. Elle était plus vieille que lui d'à peine 2 ans. Ils s'étaient croisés à l'époque parce qu'elle était née en Allemagne. Comme lui, elle était devenue reine pour l'Angleterre beaucoup plus tard. Ils s'étaient en quelque sorte croisés l'un et l'autre, retrouvés finalement à la cour d'Angleterre, comme si leur carrière avait été commune. L'un carrière de musicien, l'autre carrière, si on peut dire les choses comme ça, dans la haute politique. Bref, on imagine que l'émotion de Händel était très forte en enterrant la reine Caroline. Toujours est-il qu'il nous donna là une pièce absolument superbe. Voici le chœur final de ces chemins de Sion.
Thank you.
Le chœur final des Chemins de Sion sont en deuil, une pièce de Georg Friedrich Händel a été ici interprétée par le Monteverdi Choir et Orchestra. John Eliot Gardiner dirigeait ici un discarato dont on se souvient bien, puisqu'à l'époque il y avait Israël en Égypte dessus qui avait fait pas mal de bruit, il y a des années, oh oui, bien des années de cela. Alors je vous dois un aveu, quand on fait une programmation musicale comme ça, façon plage, qu'on doit faire une heure de musique avec quelques petits commentaires au milieu, il y a des choses qu'on choisit. Le Händel en question, je viens de le choisir, le Beethoven avant, le Rossini qu'il y aura après, enfin à peu près tout. Et puis à un moment ou à un autre, on se retrouve avec une durée, puis il faut qu'on tienne dans une autre durée, qui est celle de l'émission. Alors il nous faut toujours une musique qui va faire, vous voyez, la transition, on ne sait pas trop, peut-être même jusqu'au dernier moment, on ne saura pas tout à fait. Alors on va choisir quoi ? Une suite de Jean-Sébastien Bach ? Une valse de Chopin ? Ben oui, on a toutes les durées qu'on veut. Ou un caprice de Paganini ? Ou peut-être même deux si on en a besoin. Là, on avait besoin de 4 minutes 30. Alors je vous dis tout, ça n'a pas l'air honnête. Ben oui, mais sauf que, au bout du compte, on choisit quand même une belle interprétation. C'est Itzhak Perlman, donc c'est stratosphérique. On ne perd pas au change. Thank you. 13e et 14e caprice de Niccolo Paganini était interprété par Itzhak Perlman, musique qui réclame pour l'interprète ô combien d'efforts, non seulement pour les préparer, ces caprices, mais aussi pour les jouer. Ça s'écoute assez bien. Mais enfin, après l'effort, le réconfort, pas nécessairement pour les interprètes. Là aussi, il faut tricoter pas mal. Voici l'ouverture de la pivoleuse de Rossini. C'est Claudio Abbado qui dirige. Le réconfort, vous l'aurez compris, c'est pour nous. Thank you. moi une pièce archi connue retrouve une vie phénoménale, mais il faut qu'il y ait un Claudio Abbado à la baguette, orchestre de chambre d'Europe dans cette ouverture de la Pivoleuse de Rossini. Merci à Annie Comier, Céline Parfenoff, Dofar Guéride et Michael Fontanias